Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Et le club de la presse IT, cette semaine, c'est avec une nouvelle, les amis. Je vous demande d'applaudir, comme il se doit. Je vous demande de vous lever, vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, pour accueillir comme il le faut Mélinda d'Avansoula. Salut Mélinda.
Bonjour François.
Mais ravi de te de t'accueillir dans De quoi je me mêle.
Écoute, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Moi qui t'écoute d'habitude religieusement. Là, je suis à tes côtés, ça me fait bien plaisir.
Ben, pareillement, Mélinda, qui est une déesse de la tech depuis quelques temps, on va dire, et qui donc vient d'arriver dans la rédaction de Tech & Co. Donc, on la retrouvera de temps en temps à peu près dans toutes nos émissions pour partager avec elle sa passion des nouvelles technologies. Mélinda teste beaucoup de produits, s'intéresse à tout, au gaming, etc. Et on va se faire notre premier club de la presse IT tous les deux.
Mais oui, en tête à tête avec plein de gens, mais en tête à tête, ça me fait bien plaisir. Hein
côté actu, il y a pas mal de choses cette semaine. On va commencer par Amazon, Mélinda, qui, tout comme Apple, tout comme Google la semaine prochaine, Microsoft un petit peu plus tard, Facebook aussi, fait sa petite keynote de rentrée, tranquillou bilou.
Bah oui.
Pour annoncer, en fait, c'est Amazon Devices, hein, donc oui. C'est vraiment la branche produit d'Amazon qui a déroulé donc toute sa roadmap pour la fin de l'année.
Ah ben, et puis alors là, ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère, il y avait de quoi faire au niveau produit. Alors Amazon, ça fait quelques années, on sait qu'ils arrivent, il y a eu l'enceinte Echo portée Alexa, mais alors maintenant, on est loin de tout ça, il y a des télés, des liseuses, des appareils pour regarder la télé en streaming à toutes les sauces, pour tous les budgets. Évidemment, le cœur de tout ça, c'est notre ami Alexa.
Et oui, bien sûr.
Parce que sans Alexa, il n'y a pas de produit Amazon, en fait.
Tout à fait.
Et leur idée, on a...
C'est le point commun, c'est-à-dire que tous les produits qui ont été présentés ont Alexa et répondent à la voix, quoi.
Hormis la liseuse Kindle.
Oui, hormis
la liseuse. C'est bien la dernière qui résiste.
C'est vrai.
Il y a du Amazon absolument à toutes les sauces. Et c'était un peu le mot d'ordre, le leitmotiv de toute la conférence. C'était tout ce qu'on peut faire pour vous, limite en arrière-plan, sans que vous en aperceviez.
Oui.
Ils ont quand même dit 90% des routines, c'est-à-dire de toutes les actions réalisées par vos produits Amazon, en fait, sont faites en background, sans intervention de l'utilisateur, pour que justement, eh ben, ils puissent profiter pleinement du reste de la vie.
D'accord.
Donc Alexa, toutes les sauces, il y a des nouveaux Echo Dot, tu sais, c'est cette petite boule. Alors il y a la version Echo qui est désormais ronde de l'enceinte connectée, et l'Echo Dot, c'est vraiment le tout petit module qu'on commence à voir un peu, comment dire, fleurir partout, même dans les hôtels. Il y a de plus en plus d'hôtels qui deviennent connectés et qui ont cette petite boule. Et bien là, ils ont ajouté sur cette, je crois qu'on a la cinquième génération.
C'est l'Echo Dot.
L'Echo Dot, exactement. Ou Echo Dot avec horloge aussi. Ça, c'est pour ceux qui veulent se réveiller avec la douce voix d'Alexa ou de la radio. ils ont rajouté le capteur de température. Alors tu sais, on en avait parlé au moment de l'Apple Watch.
Oui.
Il y a ce capteur de température, mais qui n'est pas vraiment un capteur de température, qui sert à suivre le cycle d'ovulation chez les femmes. Là, en fait...
C'est-à-dire qu'il ne donne pas la température, hein, pour être bien précis.
Sur l'Apple Watch, il ne donne pas la température.
Voilà. Si vous avez de la fièvre, il ne va pas vous le dire.
Non.
Mais en revanche, il arrive à détecter les infimes différences de température tout au long d'un cycle.
Exactement.
Et c'est ça, en fait, qu'il détecte.
Exactement.
Peut-être qu'après, avec une mise à jour, on arrivera à avoir des informations plus précises sur la température corporelle. Hein.
C'est exactement ce que je leur avais demandé chez Apple. Je leur ai dit, mais justement, c'est bien le capteur de température, mais en fait, c'est pas ça qu'on s'attendait. Mais comme ils n'ont pas de certification officielle, eux, ils estiment que c'est un indicateur, mais si quelqu'un veut savoir s'il a 36,2 ou 36,3 de fièvre,
c'est pas bon.
C'est pas encore ça. Donc, ils ne veulent pas l'avancer comme un capteur de température pour de la fièvre.
D'accord.
Là, on est sur autre chose. Dans l'Echo Dot, le capteur de température, il va permettre de savoir la température de ta pièce. Ce qui fait que s'il fait trop chaud, il sait qu'il faut baisser les radiateurs.
Et oui, parce que tout ça est connecté à l'environnement Alexa.
Oui, évidemment, c'est ça le but du jeu, sans avoir de thermostat, parce que là, c'est ça qui sera utile. On parle souvent des thermostats connectés à installer sur ses chaudières.
Mmh.
Tout le monde n'a pas envie, tout le monde ne sait pas forcément faire. Et bien avec ça, votre radiateur connecté à Alexa pourra savoir si la température a baissé. Avec le capteur de présence intégré, ils nous disent même qu'ils sont capables de savoir s'il y a quelqu'un dans la pièce et donc de faire jouer les autres appareils.
Pas mal.
C'est quand même
pas mal. Et
oui, puis
en plus avec le micro, ils peuvent entendre du bruit, enfin des choses comme ça.
Exactement, exactement. On rappelle, toutes les données restent sur l'appareil. Mais
bien sûr.
Voilà. Alors il y a ça aussi, c'est tout bête ce petit geste, mais la commande gestuelle arrive dessus. Mmh. En fait, avant il y avait un bouton physique, et si vous vouliez couper... Vous pouviez.
Il y a un truc, intéressant. Donc, on voit qu'elle s'améliore de génération en génération.
Le son aussi.
C'est tout à fait normal. Le son, bien sûr, aussi. Et le répéteur Wi-Fi. J'ai vu que sur des Echo Dot, il y avait un répéteur Wi-Fi qui permet donc d'amplifier, en fait, ton réseau Wi-Fi de la maison.
Exactement.
Alors, c'est pas bête aussi.
Ça, c'est pas mal. Alors, il faut avoir le Hero, qui est la gamme de routeurs.
C'est les répéteurs Wi-Fi d'Amazon, en fait.
Voilà, ça, c'est la gamme d'Amazon. Et ils font un truc qui est pas mal. Il y a cet esprit-là aussi chez Apple avec les HomePod Mini, c'est-à-dire d'étendre votre réseau. Parce qu'aujourd'hui, dans une maison, pour des raisons diverses, les murs, la structure, le réseau Wi-Fi n'arrive pas à être amplifié. Donc, il y a ce qu'on appelle le réseau mesh, qui fait que chaque appareil compatible devient un prolongateur, du Wi-Fi de votre maison pour connecter les autres appareils. Ça prend pas, il ne va pas vous servir de routeur Wi-Fi, en revanche. Enfin, celui-là, peut-être, ce n'est pas très clair. Mais il permet
Je pense que tu as raison. C'est pas un routeur Wi-Fi. Ça amplifie, en fait, le réseau Wi-Fi d'Amazon, en quelque sorte. Ce qui est plutôt pas mal.
Mais c'est ça. C'est pas mal. Moi, j'aime bien.
Après, il faut voir les performances, etc. Mais bon.
Hero, c'est pas mal comme gamme, quand même, faut le dire. Mais voilà. Ils ont sorti une nouvelle version de leur cube, le Fire TV Cube. Alors là, on passe sur un objet qui sert à streamer, à transformer votre télé en télé connectée.
C'est l'Apple TV d'Amazon.
C'est l'Apple TV avec une bonne enceinte. Mine de rien, il faut quand même le dire, qui arrive en 4K cette fois. Alors qu'il y a une petite astuce, c'est tout bête, quand ils l'ont présenté, c'est vrai qu'on se dit, oui, pourquoi, mais en fait, en y réfléchissant, c'est très utile. Il y a deux ports HDMI au dos, mais il y en a un d'entrée. Et on sait qu'aujourd'hui, avec les consoles, les boîtiers comme ça, tout-team, les barres de son...
Les PC aussi, si tu veux, par exemple, bosser, faire de la visio et des choses comme ça.
Voilà, le nombre de prises HDMI sur le côté des télés, c'est pas, c'est assez limité et on évite... Si vous êtes comme moi, à avoir plusieurs consoles, à brancher, débrancher, ce qui n'est pas bien. Là, en fait,
Mélinda a 128 consoles chez elle.
Non, mais Mélinda, elle joue beaucoup.
Mélinda joue beaucoup.
Mais c'est vrai que là, c'est une prise de plus, mine de rien, d'entrée, qui passera par la box, par le cube, pour la télé, ça libère.
Puisqu'on est dans les Fire TV, on n'attendait pas Amazon sur la télé. Alors, ils sortent des télés, QLED. Fire TV intégré, etc., à des prix défiant toute concurrence. Bon, il y a un petit bémol, c'est que ça sortira pas en France.
Bah écoute, pas pour le moment. Ça, c'est quand même bien triste parce que moi, c'est limite le produit qui m'a fait plus envie pendant
la
conférence.
C'est vrai.
Cette télé, elle est très très belle. QLED, comme tu dis, 65 ou 75 pouces, donc on n'est pas sur du petit modèle.
Ouais, 75, ça commence à être cool.
Elle est à la fois télé très haut de gamme, puisqu'au niveau de tout ce qui se fait au niveau du son, donc HDR10+, Dolby Vision++ et tout, il y a vraiment
QLED, de la qualité. Donc c'est une technologie quand QLED, même assez aboutie.
Bel écran. Alors on rappelle, OLED et QLED, c'est pas la même chose.
Non.
C'est du LCD++.
Tout à fait.
Mais surtout, c'est une espèce d'énorme éco-show. Alors il y avait déjà le tableau 15 pouces qui était là et qui va d'ailleurs hériter de l'expérience Fire TV. Là, c'est la même chose. Vous aurez l'aspect télé et l'aspect téléconnecté, les widgets, ça c'est génial. Moi j'ai l'Echo Show 15 qui est une espèce de tableau de contrôle maison. Vous pouvez avoir vos rappels, la météo, les rendez-vous, l'agenda des enfants, la playlist musicale, la liste de courses que vous faites avec Alexa intégrée. Donc votre télécommande, vous pouvez la laisser dans un coin.
Pas mal.
Donc non, franchement c'est un super produit à partir de $800. Hors taxe toujours, donc à peu près 800 euros. Moi, ça m'a bien fait envie quand même.
Mais ça sort pas en France pour l'instant.
Pour le moment.
Dernier produit qui mérite notre attention, Mélinda, c'est cette liseuse, donc la Kindle Scribe, qui est un produit assez innovant, mine de rien, à la fois liseuse, mais aussi tablette avec un stylet.
Alors, très grande liseuse, parce que 10 pouces, donc quand même très, très grande liseuse, mais assez fine, je crois qu'elle fait moins de 6 mm d'épaisseur, donc on est bien. Elle vient avec...
La taille d'un iPad à peu
près. C'est un iPad, exactement, avec le stylet inclus. Message.
qui se colle sur le côté, parce qu'il y a un truc magnétique.
Voilà, qui s'aimante, qui n'a pas besoin de se recharger.
En plus.
Apparemment, puisque en fait, c'est pas un écran couleur.
Non.
C'est un écran paperwhite. Ouais. Exactement. C'est de l'encre électronique. Donc, ça va permettre de dessiner, d'écrire, d'annoter. Moi, ce que j'ai bien aimé dans la présentation, c'est l'annotation des livres. Parce que, c'est sacrilège d'écrire sur un livre. Sur un livre numérique, c'est moins grave.
Oui, c'est vrai. Tu peux effacer au pire.
Voilà. Et en plus, le stylet permet d'effacer, de surligner.
Ouais.
Mais surtout, toutes les notes que je pense notamment aux étudiants, toutes les notes de lecture que vous allez prendre, elles sont après répertoriées page par page dans un autre document que vous pouvez partager. J'ai bien aimé, elle est assez belle. La feinte sur ces produits-là, parce qu'il en existe d'autres sur le marché qui ne sont pas de très bonne qualité. Il y en avait quelques-uns qui étaient sortis, mais ce n'était pas terrible. C'est la réactivité du stylet.
Ça, c'est important
pour
bien écrire.
C'est vraiment le problème. Je pense qu'en ne se mettant que sur de l'encre électronique, déjà, il limite tout ce qui est temps de réaction.
À tester en tout cas, parce que c'est intéressant. On l'a vu aussi, elle est rétroéclairée.
Vous allez pouvoir. Enfin.
Voilà, vous pouvez, je crois qu'elle va être bientôt compatible avec Word, donc toutes les notes que vous aurez prises, vous pourrez les retranscrire sous Word. Donc ça peut être pas mal, un outil un peu, on va dire, voilà, entre le travail et le divertissement.
Franchement, ça mérite.
Et puis l'autonomie, c'est ça qui est top.
Autonomie
avec
des
ce
mois.
Type de truc.
Des mois.
Voilà, puisqu'on
comme
est sur de l'encre électronique.
Exactement.
Voilà, c'est pas mal.
Juste petit bémol, on oublie sur la télé. Moi, il y a un produit qui m'a bien plu. Parce que alors, tous les gens qui ont des Apple TV hautes vont être très contents. La télécommande qu'on peut enfin retrouver, c'est tout bête, mais on est nombreux à avoir plein de télécommandes, à jamais savoir où elle est. Là, il y a un système pour justement demander, Alexa toujours, retrouve-moi la télécommande, et elle va vibrer, sonner.
D'accord.
Surtout, elle va se rétroéclairer en clignotant pour pouvoir être retrouvée, même dans le noir. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça génial.
Oui, la balise télécommande.
Mais oui, mais c'est tu ne perds jamais de télécommande.
Mais bien sûr, évidemment. Donc, évidemment. Voilà. C'est le grand drame de la maison, ça, dans la famille. Hein.
Mais quand on
où est la télécommande ?
Eh bien là, tu demanderas à Alexa et elle te la retrouvera.
Ouais, c'est vrai.
C'est génial.
Bon, merci Amazon. On attend la riposte de Google. C'est ça qui va être intéressant. C'est que dans une semaine, le 6 octobre, Google va faire son show, va sans doute présenter de nouveaux produits, Nest Audio, etc. Enfin, toute la gamme. Ça va être intéressant de voir si Amazon et Google partent dans la même direction.
Mais on ne sait pas déjà tout de la conférence Google ?
Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Il y a le Pixel 7.
Oui,
d'accord.
Le Pixel 7, le Pixel 7 Pro, la montre.
Il n'y aura pas d'enceinte audio, il n'y a pas des petits trucs comme ça, sans doute.
Je pense que c'est le vrai mystère. Non, mais je rigole là-dessus, mais tu sais, à leur conférence précédente, ils avaient déjà annoncé les produits suivants.
Bien sûr.
Ils ont tellement peur des leaks que finalement...
Ils disent, ok, vous savez quoi, je vais tout vous dire.
Mais tu vas sur le compte Google, sur Twitter, là, le compte Made by Google, il y a la vidéo du Pixel qui n'est pas officiellement annoncée. On sait qu'il arrive parce que ça, ils l'ont dit eux-mêmes. Mais là, il y a toutes les images. Si vous voulez choisir votre coloris, allez-y, il y a déjà tout. On a toutes les informations.
Après, bon, c'est une autre manière de communiquer, pourquoi pas. Hein. Ça dénote du jardin secret Apple, par exemple.
Oui,
hein.
Mais par exemple, Apple ne tisse pas ses produits.
Non.
Tu vois, Google, ils le font.
Ouais,
il y a beaucoup de marques chinoises qui se sont fait une
spécialité.
Après,
ils n'ont peut-être pas le choix. C'est-à-dire
je pense que c'est vraiment pour bloquer les fuites, parce qu'ils sont vraiment victimes, sur-victimes de fuites.
Voilà, tiens, puisqu'on parle des assistants vocaux, vous savez que les assistants vocaux sont en train de bouleverser notre quotidien. Alors, pour tous ceux qui l'utilisent, il y a des gens qui sont allergiques à ce type de choses. Moi, j'ai plein de copains et de copines qui ne veulent pas entendre parler des assistants vocaux, parce que voilà, ils ont peur, etc. Voilà. Mais à partir du moment où on en a, on se rend compte que toute la famille l'utilise, et notamment les enfants, Melinda.
Mais oui, les enfants, aujourd'hui, alors quand on dit enfants, c'est vraiment jeunes, avant-ados. Hein.
Oui, bien sûr.
Ils naissent avec, ils grandissent avec, ils voient leurs parents, leurs grands frères et sœurs utiliser. Comment veux-tu qu'ils n'aient pas envie de faire la même chose ?
Non, mais c'est sûr.
Qu'on se le dise vraiment, quand t'es enfant, il n'y a rien de plus fun qu'un assistant vocal.
Évidemment.
T'as quelqu'un à qui tu parles.
Mais
on a
tous
eu des petits robots, des petits personnages.
Et qui te répond, parce que quand t'es gamin, en général, tu poses tout le temps des questions. Au bout d'un moment, ça saoule les parents.
Voilà.
Là, Alexa ou Google, ou même Siri, n'est jamais saoulé, quoi.
Évidemment.
C'est ça qui est top.
Au moins, il le dit pas.
Au moins, il le dit pas. C'est vrai.
Non, mais ce qui est génial, c'est qu'ils peuvent poser toutes les questions. Donc, des plus débiles.
Mais bien sûr. Oui,
mais même les grands le font.
Mais
hein,
évidemment.
On va pas se mentir.
Évidemment.
Même les grands le font. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette étude qui est sortie cette semaine. Apprendre avec des pincettes, mais qui avance des choses qui sont vraies sur les risques qu'encouraient les enfants à utiliser les assistants vocaux trop tôt. Alors, ce qui est, je trouve, assez drôle dans cette étude, c'est que c'est pas le rapport, comment dire, à la technologie en elle-même, les données, les trucs comme ça. On parle pas de ça, on parle en fait de leur rapport humain à venir.
Tiens.
Moi, c'est ça que j'ai trouvé rigolo, s'ils utilisent un assistant vocal, ils ne vont plus savoir dire s'il vous plaît ou merci.
Ah.
Ils vont croire qu'on peut parler à un objet comme à un être humain et
c'est
un être humain comme à un objet. En fait, c'est vrai.
C'est intéressant.
Ça, pour le coup, je trouve que c'est vrai. On ne s'adresse pas à un assistant vocal de la même manière qu'on s'adresse à quelqu'un. Alors, c'est vrai et pas vrai. Ça dépend de votre âge.
Ça dépend du contexte.
Ça dépend
aussi.
Du contexte. Ça dépend de l'éducation aussi.
Bien sûr, bien sûr.
Je sais que moi, c'est bête, mais j'ai le réflexe de dire merci. Quand j'utilise un assistant vocal.
C'est vrai, tu dis merci Alexa ?
Mais oui, c'est vrai.
Et qu'est-ce qu'elle dit ?
Alors Alexa, elle te répond.
Elle te répond.
Je suis ravie. Alors Alexa, c'est l'assistant vocal le plus poli des trois.
Tiens, c'est dingue ça.
Et pourquoi ? Parce qu'en fait, chez Amazon, j'ai discuté il y a quelques années avec le responsable américain d'Amazon, et en fait, il expliquait qu'ils avaient fait plein d'études, alors comportementales, on dirait, sur le rapport des gens aux assistants vocaux, et notamment Alexa, Et en fait, selon la façon, le ton de la personne, et je pense que Alexa ayant un prénom féminin, on ne s'adresse pas pareil.
Oui.
Oui, je ne le dis pas parce que je vais déclencher tout le monde, mais quand on dit Google, c'est pas pareil que d'appeler quelqu'un. Moi, je te dirais François, je te demanderais quelque chose. À partir du moment où on sort un prénom, et on le dit gentiment.
Ça crée une proximité.
Et en fait, il s'est aperçu que le nombre de fois que les gens disaient dans toutes les langues, et notamment en français, Alexa, je t'aime, tu es adorable, pour une réponse.
Tiens.
On parle à un robot, enfin, c'est une intelligence artificielle. Mais voilà, je pense qu'il y a une éducation à faire.
Ouais, donc les enfants, on peut avoir peur du fait qu'ils considèrent que finalement un humain, c'est comme un assistant vocal et on lui parle, on lui pose la question de la même manière et on oublie les raccourcis, on va dire, de politesse, quoi.
Plus prosaïquement, j'ai envie de dire, parlez bien à vos enfants, apprenez-leur ça et ils l'appliqueront.
Évidemment.
C'est pas pour une ou deux blagues potaches qu'ils vont faire à Alexa. Ouais. Que ça va changer quelque chose. S'ils sont bien éduqués, il n'y a pas de raison que l'assistant vocal les déséduque, voilà. Ou mal éduque.
C'était notre rendez-vous éducation dans De quoi je mêle. Merci en tous les cas.
Tu parles d'Amazon, mais Amazon lance Amazon Kids en France.
Oui, oui.
Voilà, comme quoi ils sont un peu soucieux du problème. Alors Amazon Kids, c'est Alexa pour les 3-12 ans. Donc évidemment extrêmement cadré, pas possibilité de demander tout et n'importe quoi,
d'accord,
de chercher. Mais c'est vraiment pour le jeu, l'aspect ludique, les interactions. Donc,
intéressant. Voilà pour Amazon. Je te propose d'enchaîner. On peut évoquer aussi évidemment les conséquences, on va dire, de cette guerre Russie-Ukraine qui impacte évidemment la planète entière avec des conséquences géopolitiques qu'on connaît. On va pas revenir évidemment sur tout ça, mais ça a un impact sur toute la sphère tech et notamment chez Apple qui a été obligé d'expulser les applis de Vike, qui est une espèce de Facebook, Google russe immense.
C'est une espèce de conglomérat technologique russe qui a je ne sais combien d'applications.
Bien sûr.
La plus connue,
c'est un peu comme Yandex aussi, qui est
Yandex est numéro 1.
Voilà, c'est ça. Ce qui est un peu le Google.
Voilà, Yandex, on dit toujours c'est Google, en gros, parce que c'est un moteur de recherche. VK, c'est à peu près plutôt l'aspect social. Donc ils ont VK Contact, qui est le Facebook russe, donc il y a genre plus de 100 millions d'utilisateurs.
Oui.
Enfin, on parle de l'échelle de la Russie et des pays russophones. Hein, c'est pas,
donc ça fait beaucoup de monde.
Ça fait beaucoup de monde. Ils ont mail.ru, donc notamment, ils ont des applis de photos, d'échanges. C'est énorme. On parle souvent de WeChat en Asie. Là, vous avez quelque chose qui, à l'échelle de la Russie, est énorme. Ce qui s'est passé, c'est que Apple a expulsé toutes les applications de VK. Fermez tous les comptes développeurs. Donc aujourd'hui, si vous voulez télécharger une des applications, quel que soit le pays du monde, ce n'est plus possible. Si vous
sur iPhone.
Sur iPhone.
Ouais. Il paraît que sur Google, ça marche encore.
Oui, oui, Play Store, ils viendront plus tard. Pour le moment, oui.
Mais je pense qu'ils vont être obligés aussi, parce que ça fait partie un petit peu des mesures, on va dire, de restriction que les États-Unis, en tout cas, ou l'Occident, met en place contre la Russie,
non ? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, Apple a dit, ça répond aux sanctions prises par la Grande-Bretagne, contre la Russie. Vous savez qu'en Grande-Bretagne, ils ont coupé les vivres des oligarques qui vivaient là-bas. Enfin,
Et
donc,
ils n'ont plus leur yacht.
Ah ouais, ils n'ont plus leur yacht, ils n'ont plus leur compte partout dans le monde. Enfin, c'est difficile, la vie, quand même.
Oui,
hein.
Oui, ils n'ont plus leur duplex à Notting Hill. Enfin, tous ces trucs-là.
Mince,
quoi. C'est embêtant.
Mince, vie dure. Ils n'ont plus VK Contact pour partager les infos entre eux.
C'est ça.
Mais donc, Apple a répondu à ça. De l'autre côté, les Russes disent, pas de souci, nous, on continue à développer nos applications, elles reviendront quand elles reviendront. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, elle change de terrain. Alors, on a souvent parlé des guerres technologiques et tout, mais là, on est en fait sur une guerre des réseaux sociaux. Parce qu'en Russie, ils ont interdit Instagram, Facebook, Twitter. Pourquoi ? Pour éviter, comme ils disent, la propagande de l'Occident, mais aussi empêcher les informations qui venaient d'Ukraine. On sait qu'il y avait des sondages qui avaient été faits auprès de la population russe il y a quelques mois. Ils n'avaient aucune connaissance de ce qui se passait en Ukraine. Pour eux, c'était, il n'y avait pas d'infos et ce n'était pas vrai, c'était des mensonges, des fausses photos. Il y a vraiment une guerre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parle de milliards d'utilisateurs.
Bien sûr.
Tu coupes les informations, regarde la Chine, tu ne sais plus ce qui se passe ailleurs.
C'est vrai.
Donc, chacun y va de sa petite guerre des réseaux. C'est intéressant, cette guerre qui devient hyper sociale. Le président ukrainien, qu'est-ce qu'il fait ? Ses vidéos sur les réseaux sociaux pour s'exprimer. Lui s'est appuyé depuis le début. Il a fait son image de chef de guerre sur les réseaux. Donc voilà.
C'est un média à part entière. Hein,
réponse du berger à la bergère, je te dis ça. C'est exactement ça.
Dans l'actualité aussi, peut-être un mot d'Apple qui, vous le savez, a sorti il y a quelques semaines de cela, donc sa toute nouvelle gamme d'iPhone. Tu y étais, hein, rappelons-le, tu étais à Cupertino, tu as pu toucher les produits. Tu les as testés d'ailleurs pour le site Tech & Co, que je vous invite à consulter bien sûr, hein, pour être au courant de toute l'actualité tech. On a une petite info qui est sortie là, qui est pas anodine. Hein. Il semblerait que les iPhone 14, donc les iPhone d'entrée de gamme, bon, ils sont à plus de 1000 euros. Mais en tout cas,
aujourd'hui, oui.
les premiers iPhone 14, pas les Pro et les Pro Max, hein, se vendent moins bien que prévu.
C'est pas surprenant. Parce que si tu...
Et donc, alors, la conséquence et l'info, c'est que comme ils se vendent moins que prévu, Apple, et c'est Bloomberg qui dit ça, Apple réduirait la voilure en termes de production de ses iPhones. Parce que vous savez qu'Apple, ils ont une carte météo de production des iPhones. Et dès qu'ils voient qu'ils ont trop de stock, hop, ils ralentissent en fait la production de ce modèle qui se vend moins. Et là, visiblement, l'iPhone 14 serait dans ce cas-là.
Il limite la production, mais c'est pas. En fait, honnêtement, c'était à prévoir. Nous, on a testé. En effet, j'ai testé le 14 et le 14 Pro. Il y a des différences. C'est la première année où il y a des vraies différences globales entre les deux. C'est-à-dire que déjà, visuellement, on n'a pas le même modèle sur l'écran. La puissance n'est pas la même. Ils ont vraiment tout mis sur le 14 Pro, sur la gamme 14 Pro Pro Max. Toute la dernière techno, donc la fameuse nouvelle encoche, la puce dernière génération, le meilleur appareil photo. Et en fait, l'iPhone 14, il fait un peu parent pauvre.
Ouais, il ressemble beaucoup à l'iPhone 13, en fait. C'est ça le souci.
Complètement. C'est déjà la puce du 13 Pro, donc on a juste switché un petit peu. L'appareil photo, alors il est un petit peu mieux, ils ont un petit peu changé du logiciel, mais...
Oui, mais on n'a pas le 48 mégapixels du Pro, exactement. Max, mais enfin oui. Du Pro et du Pro Max.
Voilà. Et en fait, ils ont fait à minima. Il aurait mérité de s'appeler 13S, hein, soyons d'accord, comme ils faisaient à une époque. Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe pour lui? C'était qu'hormis aux États-Unis, ben, il a pris cher partout ailleurs dans le monde.
Bien sûr.
Comme tu dis, on est sur un produit d'entrée de gamme à plus de 1000 euros. Enfin, c'est délirant. En Europe, je pense qu'ils ont fait une croix sur le marché parce qu'entre la Grande-Bretagne et la France, où c'est le pays le plus cher au monde pour avoir l'iPhone, ben, c'est pas viable. Donc, le 14 Pro se porte excellemment bien. Je pense que ça, on savait qu'il se vendrait mieux.
Oui, parce que en fait, c'est du haut de gamme. Et donc là, comme il se différencie de par ses spécificités, alors il se différencie, c'est pas le jour et la nuit, mais il est quand même plus performant. Oui. Il y a un meilleur appareil photo, enfin, etc.
À côté, il fait vraiment nouveau.
Oui, c'est ça.
Il fait plus puissant. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, puis nous, on a été les premiers à le dire, le 14, alors que les iPhone 13, les iPhone 12 de base, c'était vraiment des super produits rapport qualité-prix qui se sont vendus comme des petits pains. Bah, le 14, moi, j'encourage presque les gens à aller prendre un 13. Qui est moins cher. Alors, son prix n'a pas baissé par rapport aux autres années, mais il est moins cher que le 14.
Bien sûr.
Et franchement, il fait le job à fond. La différence de prix, cette année, elle est difficile pour la France.
Et puis, bon, après, on peut critiquer peut-être la stratégie tarifaire d'Apple. Hein. Rappelons que il a combien, l'iPhone 14? Je crois il a 7,99, non? Quelque chose comme ça, je crois.
Il a 800 euros aux États-Unis. Alors, rappelons-le, aux États-Unis, c'est
après,
toujours
il faut rajouter
prix
les taxes.
Hors taxes.
Bon, tu rajoutes 50, 60 dollars, quoi, à peu près, c'est ça. Tout dépend des États.
En gros, tu rajoutes entre 10 et 16% de taxes.
Bon, allez, admettons 100 dollars, OK?
Voilà.
Maxi. Donc, tu es à 900. Là, t'es à 1029. Donc, en fait, il coûte 129 euros de plus en France.
Ben oui, en fait, il ne faut pas oublier qu'en France, déjà, quand vous achetez un iPhone, normalement, si vous l'achetez aux États-Unis, vous devrez payer la taxe en local en plus.
Bien sûr, plus la TVA.
Taxe pour quand le fait de le ramener en France.
Oui.
En plus, normalement, en France, on a différentes taxes qui s'ajoutent.
Taxe copie privée.
Voilà,
qui est HEDV, hein, je crois.
Alors, ça dépend du stockage. Tu sais, elle est proportionnelle au stockage. C'est-à-dire, Quand
plus il y a du stockage et plus ça coûtera cher.
Plus ça coûtera cher. Mais alors après, on ne parle pas de 100 euros, hein, mais on est quand même déjà à 20 euros.
Ouais, et tous ces petits trucs qui se rajoutent font que...
Parce que moi, j'ai calculé la différence, la variation dollar-euro sur un an, on est à peu près à 15-16%.
Ouais, ce qui est énorme.
Ce qui est énorme.
Mais sur un produit à quasiment 1000 balles, c'est...
Voilà.
C'est...
Eh bien, en fait, quand tu mets tout bout à bout, tu es à peu près à 12-13% d'augmentation sur le prix-là, par rapport... sur l'iPhone 13, le fait que...
Donc, ils ont fait des efforts, tu trouves?
Alors... Moi, je ne vais pas dire ça non plus, mais je pense qu'ils ont limité la casse, peut-être au moment où ils ont arrêté le prix, c'était ça le tarif, mais ils ont limité la casse par rapport à ce que ça aurait pu être si vraiment ils y étaient allés franco. Ça n'enlève rien au fait que le prix de base est peut-être élevé, mais la différence aujourd'hui
tout à fait.
elle est logique, en fait.
Voilà, et comme tu le dis dans ton test, hein, si vous devez vous offrir un nouvel iPhone, voilà, en tout cas le 14, privilégiez le 13, parce que finalement, il vous coûtera moins cher, et il est quasi équivalent, on va dire. Quasi...
Honnêtement, je trouve que c'est terrible à dire, parce que c'est un très bon iPhone, l'iPhone 14,
oui,
mais la en France,
c'est le prix
la
qui
différence
fait,
de
qui...
prix ne voilà. justifie pas. Vous prenez
c'est
le 14
le
Pro dans
tout.
Ces cas-là, carrément.
Dans l'actualité aussi, on voit qu'on vit une espèce de chamboulement en matière de contenu. Hein. On le voit, Amazon qui investit dans le sport... Apple aussi, hein, le foot, le soccer comme on dit, donc le vrai foot, le foot on va dire européen qui se déroule aux États-Unis, ils ont acheté
la Ligue américaine.
La Ligue américaine.
Ils ont acheté. Nous emballons pas.
non, mais ils ont acheté les droits de diffusion.
Pour 10 ans en plus.
C'est énorme. Ils ont du baseball aussi, je crois.
Ils ont le match du vendredi.
Voilà.
Donc le Friday Night Game, c'est une institution aussi. C'est très drôle. Alors nous, en France, on voit Amazon, parce qu'Amazon a la Ligue 1.
Tout à fait. Ils ont Roland-Garros.
Ils ont plein de choses. Il y a d'autres choses qui vont arriver. C'est très drôle. Ces services de streaming qui, pour enrichir leur offre et se démarquer, vont au-delà des films et des séries. Alors, il y a eu un temps, c'était le stand-up qui faisait venir, des documentaires. Aujourd'hui, c'est le sport. Et ils ont raison, parce qu'en fait, le sport et les services de streaming ont une audience assez commune. En plus, le sport est peut-être plus large, mais ils vont chercher ces gens qui sont consommateurs de sport et qui veulent du plus par rapport à... Parce qu'aujourd'hui, Netflix, Amazon, alors, hormis les contenus originaux, mais on voit souvent des contenus qui passent d'une plateforme à l'autre.
Et puis quand t'es fan de foot, t'es prêt à que tu mettes 15 euros chez Canal ou 15 euros chez Amazon, en fait tu t'en fous, tu veux voir tes matchs.
Exactement.
Il y a une espèce de ferveur et de passion autour du sport qui fait que,
c'est un bon investissement.
C'est un bon investissement.
Roland-Garros, c'était gratuit en plus, je crois.
Plus, chez Amazon, il faut avoir l'Amazon Prime. Donc en fait, c'est le double effet qui se coule. T'es obligé de t'abonner à Amazon Prime pour après prendre l'option foot.
Mais Amazon Prime, on sait que c'est quand même quelque chose d'extrêmement rentable.
C'est vrai.
Même là où ils
aussi,
prix,
au quotidien,
c'est rentable et pratique. Mais ce qui est drôle avec Apple, c'est qu'Apple, ils y vont par touche, comme tu dis. Donc ils ont pris le match du vendredi en baseball, donc ça c'est pareil, c'est un grand rendez-vous. Ils ont pris la MLS, le football américain, qui est un petit peu moins populaire que le football en Europe, ça c'est sûr, mais c'est déjà ça.
Ouais.
Et puis là, ils s'offrent quand même juste le Halftime Show.
Alors qu'est-ce que c'est que le Halftime Show ?
Alors, pour ceux qui ne suivent pas la NFL, le Super Bowl, c'est celui de l'année dernière, c'est vraiment la grande fête, c'est la finale, c'est la super finale du championnat. C'est en général fin janvier, début février. Et le show de la mi-temps, c'est une institution. C'est-à-dire qu'un artiste qui passe là, il y a eu les plus grands. Il y a eu les Rolling Stones, Michael Jackson, Madonna, enfin, tout le monde y va.
Là, c'est Rihanna, là, je crois, non ?
Là, c'est Rihanna. Alors, il y a eu ça qui était très drôle, c'est qu'il y a eu des rumeurs, ça a été Taylor Swift annoncé, puis Rihanna. C'est Apple qui se l'offre. Jusqu'à présent, depuis, je crois, une dizaine d'années, c'était le Pepsi Halftime Show. C'est quand même, c'est pareil, quand vous arrivez à coller votre nom là-dessus...
La classe.
On parle d'un événement qui est regardé par des centaines de millions de gens.
Je pense que ça doit dépasser le milliard si tu rajoutes...
Oui, on n'est pas loin, mais il y a des gens qui nous regardent, qui n'attendent que ça.
Oui, qui n'aiment pas le foot, mais qui se regardent...
Moi, j'adore la NFL, je regarde tout, ce n'est pas forcément le moment qui m'intéresse le plus. Mais c'est un truc qui coûte des millions millions.
Qui est calé au millimètre près, c'est vraiment un truc... C'est une institution.
Oui, et bien alors, je vous encourage à regarder juste l'installation de la scène à chaque fois. C'est impressionnant parce que là, on voit... Alors là, il y a des dizaines et des dizaines de danseurs. Il y a souvent du public ou d'autres danseurs devant la scène. Enfin, c'est un truc impressionnant. Mais pour Apple, quelle vitrine. Vitrine pour Apple Music, déjà, puisqu'on fait venir des artistes qui sont dessus, donc c'est toujours ça de gagner. Vitrine aussi pour se dire, on est là, parce qu'il y a une renégociation des droits du football américain. Ça, aux États-Unis, c'est un truc... Amazon a pris un match le jeudi soir. Disney a longtemps été annoncé comme acheteur potentiel d'un pack de matchs diffusé sur Disney.
Donc, à ton avis, ça va être le prochain truc qui va...
C'est le nouveau terrain de bataille.
Super Bowl, ça va.
Il n'y a que Netflix. En fait, Netflix, on les entend pas.
Ouais, c'est vrai.
Ils font des documentaires super.
Ouais. Mais ils sont complètement inexistants sur le sport.
Mais sur le live.
Sur le live, d'une manière générale. C'est vrai qu'il n'y a pas de live.
Ils avaient tenté en France de sortir une télé en live.
Ouais.
Direct. Je crois qu'elle existe toujours. Je sais pas comment elle marche.
Non, mais enfin, c'est pas du vrai live, en fait.
C'est leur programme.
Ça te lance des programmes à la suite. Mais
c'est une vraie chaîne avec des programmes, mais il n'y a pas d'événement direct.
Non.
Ils vont pas du tout sur le sport. Alors peut-être qu'ils vont nous faire un truc d'un seul coup. On va les voir arriver. Mais par exemple, ils y vont pas. Pour Apple, pour moi, choper le Halftime Show, c'est énorme. Ils vont pouvoir se faire de la promo.
Mais est-ce qu'il sera gratuit, à ton avis, pour tous les spectateurs?
Bien sûr. Le Super Bowl, c'est un événement gratuit.
D'accord.
Aux États-Unis, si un jour il y a une Oui, oui. Il y a quelqu'un qui dit, je vous le mets sur une chaîne en pay-per-view,
ça va exploser.
C'est un rendez-vous, c'est la grand-messe.
Oui, c'est une institution.
Et les familles sont prêtes là-dessus. Enfin, c'est un truc, on s'organise le dimanche.
Rappelons combien coûte le spot de pub pendant ces trucs-là. C'est incroyable. Il y a des boîtes qui investissent
il y a des dizaines de millions certains spots. On parlait d'Amazon. Amazon a eu, par exemple, la très bonne idée pendant longtemps de se mettre avec des pubs délirantes au Super Bowl tous les ans.
Et
pour Alexa, avec leurs stars. Ouais. Et mine de rien, quand ils sont arrivés pour dire « Hey, les gars, on a acheté le match du jeudi soir », qui est pareil.
Ça paraissait quasi normal, quoi.
Finalement, ok, pas de problème.
Voilà, passionnant tout ça. Merci Mélinda.
Mais écoute, c'était avec plaisir.
Quel plaisir de te retrouver. Je suis sûr que tous ceux qui nous regardent et nous écoutent partagent le plaisir que j'ai pu avoir de te retrouver dans De Quoi Je Mail.